Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RFI. Il est 5h à Paris, 3h en temps universel.
Léa Boutin-Rivière.
Le journal largement consacré aux élections législatives anticipées en France. Malgré une participation plus élevée que prévue, les résultats sont conformes au sondage. Plus de 33% des voix pour le Rassemblement national de Marine Le Pen. C'est du jamais vu. Les forces de droite, du centre et de gauche n'ont qu'une semaine pour construire une stratégie, des alliances et faire barrage. Également dans ce journal, la présidentielle de samedi en Mauritanie. Et puis, le ballon rond, les huitièmes de finale de l'Euro de football se poursuivent aujourd'hui. Soir de fête pour les lepénistes, jour de défaite pour les macronistes. En France, à l'issue du premier tour des législatives anticipées, convoqué par le président, le Rassemblement national d'extrême droite décroche le meilleur score de son histoire avec ses alliés. Le parti à la flamme remporte un peu plus de 33% des voix devant l'Alliance de gauche, le Nouveau Front populaire, avec 28% des suffrages. Quant au camp de l'ex-majorité présidentielle, il est à la traîne avec 21% des voix. Le RN réitère donc son score des européennes il y a 3 semaines. Ce jour-là, la formation était arrivée largement en tête dans l'est du pays, en Alsace, sauf à Mulhouse et Strasbourg, où la gauche avait décroché la première place. Même chose ce dimanche, le NFP reste en tête dans les 3 circonscriptions strasbourgeoises. Illustration dans un bureau de vote du centre-ville avec Vilhoen Minos-Boileau.
Alors, 20h au bureau de vote de l'école maternelle de l'Académie. À la clôture du scrutin, la présidente du bureau de vote, Aurélie Cosman, se réjouit de l'importante mobilisation.
On est à plus de 78% de participation. Dans ce bureau de vote, la participation est toujours importante, mais oui, une très forte mobilisation aujourd'hui.
Ouais, 10, donc, hein.
Après plus de 2 heures de dépouillement, les résultats tombent. Dans ce bureau de vote, le député sortant Emmanuel Fernandez de la France Insoumise arrive largement en tête, à l'image du reste de la 2e circonscription du Bas-Rhin, où il a obtenu 44% des suffrages. La candidate macroniste Rebecca Breitmann est en 2e position avec 22% des voix, suivie de près par la candidate du RN, Virginie Jauron, qui se qualifie elle aussi pour le second tour avec 21% des voix. Dans les 2 autres circonscriptions de Strasbourg, les candidats du Nouveau Front populaire arrivent eux aussi largement en tête. L'écologiste Sandra Régol manque de peu de l'emporter dès le premier tour dans la 1ère circonscription avec près de 48% des voix. Elle devra affronter le candidat macroniste arrivé loin derrière au second tour, tout comme le socialiste Thierry Sauter affrontera le candidat de la majorité et député sortant Bruno Schuder, ainsi que la candidate du RN dans la 3e circonscription. Vilhoen Minos-Boileau, Strasbourg RFI.
Un vote sanction pour le centriste François Bayrou, un bloc macroniste pratiquement effacé d'après Marine Le Pen, un large désaveu selon Jordan Bardella, ou encore une lourde et indiscutable défaite du camp présidentiel selon le patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Au-delà du choc provoqué par le score historique du Rassemblement National, les réactions hier étaient unanimes. Le camp du chef de l'État ressort affaibli de ces élections. L'ex-majorité qui a désormais une priorité, une seule, pas une voix ne doit aller au Rassemblement National. Alors pour éviter une majorité absolue qui porterait l'extrême droite à la tête du gouvernement, le Premier ministre Gabriel Attal a ouvert la porte à des désistements, des négociations, y compris auprès de la gauche, Valérie Gasse.
À peine son allocution prononcée à Matignon pour prendre acte des résultats, Gabriel Attal a envoyé un premier message d'entre-deux-tours en faisant savoir qu'il suspendait la réforme de l'assurance chômage, une réforme décriée par la gauche et qui, selon l'entourage du Premier ministre, pourra faire l'objet de discussions entre les forces républicaines, un acte de campagne et une promesse de compromis qui vise à poser les bases d'une nouvelle gouvernance. À partir de ce que Gabriel Attal a nommé dans sa déclaration, une majorité de projets et d'idées. Incapable désormais d'avoir seule une majorité, pas même relative, le camp présidentiel joue sa dernière carte en tendant la main à la gauche et en faisant miroiter la possibilité d'une coalition de gouvernement contre le Rassemblement national dans l'hypothèse où dimanche prochain celui-ci n'aurait pas la majorité absolue. Empêcher Jordan Bardella d'entrer à Matignon, c'est l'objectif partagé de l'alliance macroniste et du Nouveau Front populaire. C'est le plus petit dénominateur commun de 2 blocs qui se sont combattus battus âprement au premier tour et dont les alliances et désistements au second ne coulent pas de source.
Et illustration de ces divisions entre le camp présidentiel et le NFP, l'ex-majorité a manqué de clarté hier. Tous n'ont pas partagé le message de Gabriel Attal. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe a par exemple renvoyé dos à dos le RN et la France insoumise, tandis que la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a appelé à voter pour le plus républicain au second tour, tout en excluant certains candidats de gauche. Manque de clarté aussi chez les Républicains, l'historique parti de droite, dans la plus totale déconfiture depuis l'annonce par Éric Ciotti d'une alliance avec le RN, malgré le refus de la quasi-totalité de ses camarades. Divisé en campagne, les LR l'ont été aussi hier soir. Le parti n'a à ce stade donné aucune consigne claire pour le second tour. La réaction à chaud de Bruno Belin, sénateur LR de la Vienne, dans le Centre-Ouest.
J'assume complètement, la discussion elle doit être au cas par cas, en fonction des enjeux de territoire, des personnalités, parce que on ne peut pas traiter pareil, effectivement, dans les candidats Front Populaire où ils ne s'entendront pas demain pour gouverner ensemble. Il y a des sociodémocrates et il y a des LFI, ceux qui sont évidemment dans une autre démarche. Les messages de parti qu'on a pu connaître à la fin du XXe siècle ne vont pas forcément se reconnaître dans l'expression du 7 juillet. Ça va être du cas par cas. Et on le voit bien dans le département où je suis élu, dans le département de la Vienne. La majorité départementale se retrouve derrière la majorité présidentielle pour dire non au Rassemblement national.
Bruno Belin, interrogé par Philippe Le Caplin. Et on revient tout au long de la matinée sur ces élections. RFI vous propose une édition spéciale de 5h15 à 5h30, temps universel, puis de 6h10 à 7h30, TU toujours. En Mauritanie, le rendez-vous électoral, c'était samedi. Un peu moins de 2 millions d'électeurs appelés à choisir leur président. La totalité des résultats ont été compilés. Ils doivent encore être confirmés. Le sortant Mohamed Ould Razouani est à ce stade donné gagnant du scrutin. Mais une partie de l'opposition conteste et refuse de reconnaître les résultats. Le militant Biramda Abeid, arrivé deuxième d'après ses chiffres, a ainsi accusé la CENI d'être instrumentalisée par le pouvoir. Vous écoutez RFI, il est 5h07 à Kanyabayonga, dans l'est de la République démocratique du Congo, où les célébrations de la fête de l'indépendance hier avaient un goût amer, car les rebelles du M23 continuent de grignoter du terrain dans l'est du pays. Hier, les combattants ont pris la localité de Kirumba. Il y a quelques jours, c'était celle de Kanyabayonga, à 150 km de Butembo. Et malgré le discours ce samedi du président Félix Tshisekedi, dans lequel il a promis de renforcer les capacités de l'État à sécuriser le territoire, la population ne cache pas son inquiétude. Maté Sanane, le président de la coordination urbaine de la société civile de Butembo.
Et ils se disent, si le gouvernement ne fait pas quelque chose, donc ils sont voués à l'échec. Parce qu'ils ne comprennent pas avec la force et avec les hommes, mais ils ne parviennent pas à faire l'offensive. Voilà pourquoi nous sommes dans l'inquiétude. Néanmoins, les gens sont là, ils se disent, bon, voyons ce qui va se passer. Il y en a des personnalités qui se sentent menacées à l'arrivée de l'ennemi et ils se préparent en conséquence. Bon, la population, ils se disent qu'être prêt à ce qui va arriver, mais néanmoins, ceux qui ont la possibilité ou ceux qui se sentent ciblés, et ils se déplacent carrément. Ils se déplacent carrément. Et donc, c'est un geste automatique parmi certaines personnalités de la ville.
Propos recueillis par Sidi Yansané. Et puis un mot de sport, l'Euro de football. Sans surprise, l'Angleterre rejoint les quarts de finale. Sans surprise, mais après avoir souffert, Baptiste Leduc.
Rien ne réussissait à l'Angleterre face aux courageux Slovaques. Certains supporters ont même dû croire à une malédiction. Le but refusé à Foden, le manqué de Kane, le poteau de Declan Rice. Cela semblait écrit, la Slovaquie allait réaliser le plus grand exploit de son histoire et rejoindre les quarts de finale de l'Euro. Oui, mais cette saison, il y a un homme qui sait comme personne se montrer décisif dans les ultimes secondes d'un match. Jude Bellingham, d'un superbe retourné acrobatique, l'Anglais égalise au bout du temps additionnel. En prolongation, la Slovaquie, sonnée, craque de nouveau et laisse filer son rêve. L'Angleterre qualifiée reste certes perclue de doutes, mais Jude Bellingham incarne peut-être cette mentalité de gagnant dans une sélection souvent moquée pour sa tendance à décevoir dans les grandes compétitions. Un peu plus tard, dimanche, L'Espagne, elle, n'a pas tremblé. Oui, la Géorgie a ouvert le score, mais le collectif espagnol a déroulé, marqué 4 fois et laissé probablement la meilleure impression parmi les favoris. Se profile un alléchant quart de finale entre la Roja et l'Allemagne, le pays hôte.
RFI, il est 5h10 ici à Paris.